Salut à toutes et à tous, c'est Carrefour du Monde, l'émission de l'actualité internationale vue de manière décalée. Vous écoutez Carrefour du Monde à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM, à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 95.2 FM et à Montréal le dimanche à 13h sur CISM 89.3 FM, sans oublier notre site internet carrefourdumonde.org. Au sommaire de cette nouvelle édition de Carrefour du Monde, Saint-Pierre-et-Miquelon, une île au milieu de l'Atlantique qui est un petit coin de France au large des côtes canadiennes. En Suisse, le système de santé est mis à mal. En Espagne, la présomption d'innocence a été gravement attaquée par les médias et les institutions judiciaires. En Grande-Bretagne, les conservateurs tentent de dépoussiérer leur parti pour revenir dans l'arène politique. Enfin, le gouvernement canadien se penche actuellement sur le pétard. Dans la partie magazine de Carrefour du Monde, nous allons partir loin dans le Grand Nord canadien. Ces territoires dont la moitié de la population est autochtone connaissent un système politique particulier, puisqu'il s'agit du gouvernement de consensus. Vous écouterez le reportage d'Hélène Mercier en deuxième partie d'émission. Mais démarrons cette émission avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Le mois d'octobre est exceptionnel à Saint-Pierre-et-Miquelon. La température y est encore agréable. Ceci dit, c'est le climat social et économique qui ne va pas fort. Depuis l'arrêt de la pêche en 1992, la situation économique va de mal en pis. Ce sont les subventions de l'État qui permettent à la population locale de vivre confortablement. Le problème, c'est que personne ne se soucie de l'avenir ni des questions environnementales alarmantes. Plus de détails avec Larry Sérigna.
Préoccupante, la question de l'environnement à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien, il n'existe aucune force vive dans l'archipel, pas un seul écolo pour dénoncer les inactions des élus en matière d'environnement. Pour ne prendre que l'exemple des déchets domestiques et industriels, aucune sensibilisation n'a encore été faite. On dépense, on consomme, on jette et on pollue, et pour le recyclage, on verra ça demain. Pourtant, nos voisins canadiens pourraient nous servir d'exemple tant ils excellent en matière de recyclage et de triage des ordures ménagères. À la décharge publique, c'est un vrai champ de bataille. Les carcasses de voitures, les pneus, les piles, les déchets hospitaliers, tout, absolument tout, se trouve sur le même terrain. Et le tout représente près de 9000 tonnes de déchets par an. Que dire des barils d'huile usagés qui dorment à moins de 50 mètres du rivage et qui risquent à tout moment de tomber à la mer et provoquer une véritable catastrophe écologique. Mais l'écologie n'intéresse personne sur le caillou. Des études ont quand même été menées, mais les solutions envisagées, telles que la solution du pollueur-payeur, ne fait pas l'unanimité. Et notre isolement complique l'exportation de nos déchets en métropole ou au Canada. Voilà entre autres les inconvénients qui existent quand on vit sur une île. Néanmoins, les îles bénéficient d'autres avantages, des avantages sur les salaires notamment, des avantages sévèrement critiqués par le député UMP Marc Laffineur, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le député critique la fonction publique outre-mer et propose la suppression de plusieurs avantages comme le congé bonifié, le système de majoration des salaires et des retraites, la prime d'éloignement. Des mesures qui ne réjouissent pas les ultramarins à l'heure où le gouvernement cherche par tous les moyens à réduire les finances publiques, le rapport parlementaire de Marc Laffineur fait mouche. En tous les cas, les dom-toms ne veulent rien entendre, avantage il y a, avantage il restera. Et Brigitte Girardin, la ministre de l'Outre-mer, devra aller dans ce sens si elle veut avoir le soutien des insulaires. Et des soucis dans le monde du quatrième pouvoir, Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les autres territoires ou départements d'outre-mer, sera aussi touché par la concentration des médias. André-Michel Besse, le directeur du réseau France Outre-mer, a annoncé récemment l'intégration des stations RFO à la géante France Télévisions. Les 80 salariés de la station Saint-Pierre-Est s'inquiètent de leur sort, mais les responsables se veulent rassurants. Ils vendent leur projet en disant que l'intégration permettra, je cite, « de bénéficier de la dynamique d'un groupe important en même temps que d'accroître la production et la diffusion de programmes de proximité ». Quand on sait que RFO représente un budget global de 223 millions d'euros pour l'État, alors que le réseau produit très peu de programmes, on est en droit de se demander si le but de cette intégration ne cache pas autre chose. La volonté d'améliorer la visibilité de l'outre-mer, c'est très bien, mais dans un contexte libéral, le simple argument de permettre une plus large diffusion d'images ultramarines sur les chaînes publiques métropolitaines, c'est un peu gros. Affaire à suivre. Clarisse Irignat à Saint-Pierre-et-Miquelon pour Carrefour du Monde.
« En Suisse, le système de santé est actuellement en difficulté. Celui-ci est bon, même excellent en termes de prestations, mais les coûts explosent et les familles nombreuses à revenus modestes ne savent plus comment payer. Explication, Laurent Dufour.
Selon les cantons et les caisses, la prime d'assurance maladie de base va de 350 à 600 euros par mois et par personne. Les enfants paient un peu moins, mais tout de même. Et cette prime est obligatoire. Elle donne droit à un catalogue de prestations définies par l'État. Les caisses, qui sont toutes privées, répondent donc à une législation publique. Le montant des primes qui doit recevoir le feu vert de l'État varie d'une caisse à l'autre en fonction du nombre de bons et de mauvais risques. À côté de cela, il y a un régime d'assurance de droit privé, les complémentaires, pour par exemple l'hospitalisation privées, les médecines alternatives ou naturelles, ou encore les soins dentaires qui ne figurent pas dans le catalogue de base. Alors évidemment, des montants pareils ne peuvent pas être supportés par chacun. Les cantons subventionnent les familles les plus modestes, mais même ainsi, cela ne suffit pas toujours. Il y a un autre moyen de réduire les primes, choisir une franchise élevée. Avec l'assurance de base, on doit payer les 600 premiers euros par an de frais médicaux, mais on peut choisir une franchise jusqu'à près de 2000 euros. Ainsi, un rabais est accordé sur les primes de base. Cette année, cependant, cette catégorie d'assurés est pénalisée. Une réforme diminue le rabais accordé. Trop, c'est trop, estiment la gauche et l'extrême droite. L'extrême droite conservatrice demande de diminuer le catalogue de prestations de l'assurance de base pour faire baisser les primes. Mais la proposition est peu claire. Surtout, on ne sait pas quelles prestations seraient supprimées. Se dessine le risque d'une médecine à deux vitesses, avec d'un côté les riches qui peuvent se payer une complémentaire qui couvre tous les risques, et de l'autre les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de soigner certaines affections. À gauche, on revient avec l'idée d'une assurance de base étatisée, avec prime en fonction du revenu. L'avantage serait de réduire certains frais administratifs, un meilleur contrôle de l'État et la solidarité entre hauts et bas revenus. Mais devant le peuple, ce projet pourrait échouer. Les forts lobbies des assurances et de la pharmacie brandiront le spectre de la déresponsabilisation individuelle. Avec un État qui doit tout, personne ne sera incité à contrôler sa propre consommation médicale. Et il y en a ces jours qui feraient bien de penser à leur santé, c'est nos politiciens. Depuis le début de l'automne, c'est l'hécatombe sur les routes. 3 retraits de permis pour alcool au volant et une embardée spectaculaire pour cause d'excès de vitesse pour 4 parlementaires fédéraux sur 200. Et tout cela révélé en 2 mois. Vous avez dit imprudence, ou ces révélations auraient-elles quelque chose à voir avec les prochaines élections du 19 octobre ? Et puis on termine avec cette bisbille turco-suisse. La ministre suisse des Affaires étrangères devait effectuer un voyage officiel à Ankara. Moins d'une semaine avant son départ, on apprend l'annulation de la visite par les autorités turques. Motif, la reconnaissance par l'un des parlements cantonaux, donc pas par l'État fédéral, du génocide arménien. La ministre suisse a qualifié la réaction turque d'excessive. La rencontre devrait finalement avoir lieu dans quelques mois, mais dans les milieux économiques suisses, on s'inquiète déjà pour les futurs contrats sur le marché turc. Lausanne, Laurent Dufour, Carrefour du Monde.
En Espagne, la notion de présomption d'innocence a été gravement mise à mal par les médias et les institutions judiciaires, poussant la population à conspuer, humilier et parfois faire enfermer des suspects qui se révèlent parfois être des innocents. Le ministre de l'Intérieur a même laissé entendre l'inutilité de ce droit pourtant fondamental. Pendant ce temps, sur la scène politique, c'est le feuilleton de la succession au sein de la droite qui se poursuit. Les élections de mars 2003 approchent et le Premier ministre prépare sa sortie de scène. Mais paradoxalement, il semble prêt à tout pour conserver son influence et forger son futur pouvoir de l'ombre, Emmanuel Stelz.
La succession dans la continuité, c'est l'option favorisée par le candidat du Parti conservateur, mais qui se fait appeler Parti populaire, aux élections générales de mars 2003. La succession, c'est un grand mot, puisque Mariano Rajoy n'est encore qu'un candidat parmi d'autres, et le fait qu'il succède à José María Aznar au poste de Premier ministre en reste au stade de l'hypothèse. L'Espagne est devenue une démocratie il y a 25 ans, la droite l'a digérée et on ne peut pas aller jusqu'à l'accuser de vouloir révoquer le processus. Mais peut-être l'ignore-t-elle bel et bien quand ça l'arrange. Dernièrement, le Parti populaire s'est comporté comme s'il tenait les rênes d'une véritable monarchie présidentielle. Outre le caractère peu démocratique du processus de désignation du candidat, qui consistait tout simplement à suivre du regard le doigt pointé par le tout-puissant Aznar dans la direction de son favori et à applaudir à l'unisson, la fameuse succession a démontré ces dernières semaines l'ampleur de l'immobilisme à venir. La première chose inconsciemment revendiquée par le candidat, c'est l'absorption de la droite espagnole par l'absolutisme aznarien. Quand le chef du gouvernement quittera son fauteuil, il aura déjà placé consciencieusement tous ses pions sur l'échiquier du nouvel exécutif du parti ou du pays. Actuellement, son dévoué candidat ne fait plus un pas sans être escorté par les plus proches collaborateurs du Premier ministre. Ses conseillers sont tous issus du cercle des éminences grises d'Aznar. D'après les dires de l'intéressé, la configuration du futur probable gouvernement de droite s'élaborera selon un schéma très simple. Quelques remaniements en circuit fermé. Autrement dit, peu de nouvelles têtes, les fidèles de l'ère Aznar devenant les sbires de Mariano Rajoy. On rendra les hommages pour services rendus en distribuant des portefeuilles et en assénant quelques bons coups de coude aux jeunes générations. Sur ces conjectures plane l'inconnu quant au projet de reconversion d'Aznar lui-même. L'absence de projet marque-t-elle l'idée d'incarner dans l'ombre le bras droit du pouvoir ? La succession, c'est finalement plutôt la perpétuation, l'héritage frénétiquement astiqué pour que reluise sans relâche la figure d'Aznar et que gonfle son aura celle de grand leader. Enfin, n'exagérons rien. Ce sont les signes précurseurs et tout pourrait se passer autrement. Et malgré les indices, il faut encore laisser au candidat Mariano Rajoy le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, justement, voilà un concept que l'actuel ministre de l'Intérieur et ancien ministre de la Justice estime qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux personnes suspectées d'avoir commis un délit. Probablement inspiré par la guerre préventive de ses amis nord-américains, Angel Acebes a récemment proposé d'appliquer à certains suspects une nouvelle catégorie juridique de son invention. Ce paramètre magique de classement pour combattre le crime, il l'a appelé le profil délinquant vraisemblable. Le ministre a ainsi justifié une erreur judiciaire mise à jour il y a peu et concernant une innocente ayant purgé 2 ans de prison pour assassinat en déclarant qu'au moment de sa condamnation, celle-ci présentait le fameux profil délinquant vraisemblable. En réalité, la femme est lesbienne, froide et sûre d'elle-même. Et comme le ministre pense que ces caractéristiques chez une même personne font d'elle une délinquante, il a inventé ce truc infaillible. Il s'agissait donc vraisemblablement d'une condamnation préventive, bref, un délit de sale gueule. Dans un biais d'humeur, un chroniqueur du journal El País relate de façon comique la terreur qui s'est emparée de lui depuis l'apparition de cette nouvelle figure pénale. Le matin, je commence ma lecture du journal par le récit des crimes commis et je ne respire qu'en vérifiant que je dispose d'un alibi solide pour chacun d'entre eux. Dans les endroits publics, je m'arrange pour attirer l'attention des gens et dans les cafés où je vais, je casse la vaisselle afin qu'on se souvienne de moi et que le moment venu, on certifie que j'y étais à l'heure du crime. Je me suis arraché les empreintes digitales et j'éternue dans des tissus imperméables afin de ne pas disséminer mon ADN n'importe où. Quand je voyage de Madrid à Barcelone, je ne fais pas l'aller-retour le même jour, sans quoi on pourrait m'imputer les crimes commis dans ces deux villes. Et le journaliste de conclure en s'interrogeant sur le profil délinquant vraisemblable du ministre lui-même. Au-delà de l'inconscience du ministre, c'est le piétinement de la notion de présomption d'innocence qui transparaît. La presse espagnole utilise fréquemment le terme « coupable » pour désigner un accusé ou un simple suspect. Les gens se réunissent de plus en plus nombreux à la sortie des commissariats pour tenter de lyncher les supposés assassins. Lors de la dernière tentative de lapidation d'un suspect, c'est le commissaire de police qui a dû être évacué d'urgence alors qu'il avait été blessé par une foule enragée. Une foule probablement gavée de programmes de télévision dans lesquels le reporter accompagne une équipe de police en livrant ses impressions sur l'aspect des personnes arrêtées, parlant de leur sale tête et de la peur qu'elles sont censées inspirer, des personnes dont l'identité est par ailleurs à peine dissimulée. Bref, en Espagne, la présomption d'innocence est un droit, mais seulement sur le papier. Un secret bien gardé, connu de quelques magistrats. Un droit que le ministre en personne juge superflu. À Madrid, Emmanuel Stales pour Carrefour du Monde.
Malgré les mensonges répétés du gouvernement Blair sur l'Irak, l'opposition conservatrice reste malmenée dans les sondages. Ce parti n'arrive pas à se donner une image positive au sein de la population britannique. Le parti conservateur qui a tenu son congrès annuel à Blackpool obtient toujours de faibles scores dans les sondages. Faïd Swahili.
Quelques semaines après les travaillistes de Tony Blair, l'opposition conservatrice s'est réunie pour son assemblée annuelle à Blackpool afin de fixer les objectifs qui mèneront le Tory au pouvoir. Cependant, le lendemain ne s'annonce pas rose. Ian Duncan Smith, le chef du Tory, est contesté par une grosse partie de ses pairs. Son slogan, « Renouer le lien », leur paraît trop vague et il lui reproche de n'avoir pas de ligne politique claire et de vouloir baisser les impôts. Les statuts du parti précisent que si 25 députés signent conjointement une lettre de défiance, une assemblée doit être tenue pour élire un nouveau chef. D'ores et déjà, 2 candidats se sont déclarés pour succéder à Ian Duncan Smith, mais celui-ci résiste toujours. Les militants n'ont pas encore voix au chapitre, mais cela ne devrait pas tarder selon les spécialistes. Et Ian Duncan Smith n'est pas favori, loin de là. Des récents sondages ont même confirmé qu'à choisir entre Duncan Smith et Blair, les Britanniques préféreraient Blair pour Premier ministre, ce qui est révélateur de la popularité du chef conservateur. Car en effet, Tony Blair n'a pas été à la fête ces derniers temps, son engagement en Irak étant fortement contesté par les Britanniques. Le paysage audiovisuel britannique lui aussi succombe aux méga-fusions. Le groupe Granada, propriétaire d'ITV, la première chaîne hertzienne privée, rachète le groupe Carlton pour former ITV, l'un des plus grands groupes de communication européens. Patricia Hewitt, la ministre de l'Industrie et du Commerce, n'était pas peu fière d'annoncer la nouvelle le 7 octobre dernier. Ce nouveau groupe est censé rendre la vie plus difficile au réseau payant BSkyB de Rupert Murdoch, mais surtout à la BBC, dont le traitement de la guerre en Irak n'a pas encore été digéré par le gouvernement Blair. Cependant, les annonceurs publicitaires sont inquiets. Le nouveau groupe capte 52% du marché publicitaire télévisuel britannique et ils craignent d'être victimes de cette position dominante. Pour calmer le jeu, le gouvernement a annoncé la création d'un poste de médiateur pour contrôler les transactions entre les annonceurs et ITV. Faïd Swahili, Carrefour du Monde, Londres.
Suite aux fortes pressions du grand voisin états-unien, le gouvernement canadien est en faveur d'un renforcement du projet de loi sur la marijuana. Le ministre de la Justice, Martin Cochon, songe actuellement à abaisser la quantité maximale de 10 à 5 grammes. Il envisage également d'autres mesures comme des peines de prison obligatoires pour les cultivateurs de marijuana. La revue d'actualité canadienne en compagnie d'Hélène Mercier.
5 grammes en moins feront peut-être pencher la balance du côté du ministre canadien de la Justice, Martin Cochon. Ce dernier est déterminé à faire adopter son projet de loi qui vise à décriminaliser la possession simple de cannabis. Pour convaincre les députés récalcitrants, le ministre est prêt à ramener de 15 à 10 le nombre de grammes de marijuana que pourra détenir un individu sans avoir un dossier criminel. Ainsi, les individus ayant en leur possession 10 grammes ou moins de marijuana auront à payer une amende de 150 $ dans le cas des adultes et de 100 $ dans le cas des adolescents, au lieu d'avoir à comparaître devant un tribunal et d'hériter d'un dossier criminel. Les députés alliancistes et certains de ses confrères libéraux ont exprimé que 5 grammes serait, selon eux, le chiffre gagnant. 5, 10, 15 grammes, faites vos mises, quel sera le chiffre magique? L'Auto-Québec, ça ne change pas le monde, sauf que... C'est le slogan que les Québécois entendent depuis plusieurs années, slogan qui se veut motivateur pour pousser les citoyens à acheter des billets de loterie ou plutôt pour les pousser à devenir millionnaires, bien sûr, et ainsi enflouer les coffres de la société d'État, l'Auto-Québec. Les questions de jeux pathologiques ont fait couler beaucoup d'encre dans la province canadienne, où le tiers des revenus de l'Auto-Québec, soit 3,6 milliards de dollars annuellement, proviennent de joueurs compulsifs. Ayant soupé du comportement de la société d'État, le professeur et essayiste Pierre Desjardins a annoncé la sortie prochaine de son livre qui aura pour titre « Le livre noir de l'Auto-Québec, ça ne change pas le monde, vraiment ?» Depuis 15 ans qu'il étudie le phénomène du jeu, imaginez sa joie quand cette semaine, le gouvernement Charest annonçait que finalement, il laisserait dans les bars et restaurants les machines de vidéo-poker qui gobent à coups de 25 sous la qualité de vie de plusieurs centaines de Québécois. Dans le livre de Pierre Desjardins qui sortira en mars prochain, il note entre autres que pour chaque dollar qui arrive dans les coffres de l'Auto-Québec, il en coûte 3 $ en frais sociaux au gouvernement. Simple calcul, oui, que certains ont compris plus vite que d'autres. Des Amérindiens de la région d'Oka ont refusé catégoriquement de voir un casino s'installer sur leurs réserves.
À la manifestation, on rêve de révolution.
Par un jeudi après-midi ensoleillé, des cégepiens et universitaires se sont rassemblés devant le bureau du premier ministre québécois Jean Charest à Montréal. Ils ont sommé le Parti libéral de tenir ses promesses en ce qui a trait aux cours reliés à l'éducation. La divulgation la semaine dernière d'un document de travail sur la réingénierie de l'État prévoyant gratuité et gel des frais de scolarité pour la première année du mandat seulement et non pour le mandat en entier a ravivé les craintes des étudiants. Ils ont exigé une loi cadre sur l'accessibilité des études, histoire de ne plus avoir le fusil sur la tempe à chaque début de session. Un père, Marc, a coupé tout contact avec sa fille de 21 ans, Lisanne, qui danse dans un bar de danseuses nues. Marc n'approuve pas les choix de Lisanne et refuse de la voir mener sa vie de cette façon. Histoire triste, certes, mais relevant du domaine personnel. Alors vous vous demanderez, avec raison, qu'est-ce que ça vient faire dans une revue d'actualité? Eh bien, le père en question est Marc Bellemare, le ministre de la Justice du Québec. Un animateur de radio de la ville de Québec a cru pertinent annoncer en ondes que la fille de notre ministre de la Justice dansait dans un bar de la vieille capitale, un établissement qui est reconnu pour entretenir des liens avec le milieu criminel. Une fois annoncée en ondes, la révélation de l'animateur a créé une onde de choc chez les journalistes qui se sont empressés de parler de démission forcée pour le ministre. Sa vie privée est allée au grand jour. L'homme a expliqué aux journalistes, comme on se livre à son psychanalyste, « Je sais que ma fille a des problèmes, elle a fait un choix de vie que je ne partage pas à différents égards. » Le premier ministre Jean Charest a volé à son secours, lui réitérant toute sa confiance. En quoi un ministre, qui est aussi un père, devient biaisé car sa fille ne suit pas le droit chemin qu'il lui a proposé? Explication, s'il vous plaît, car moi, je n'y comprends rien. Doit-on porter le poids des erreurs de ses enfants en plus du poids de nos propres erreurs quand on devient un visage public? Encore une fois, je demande qu'on m'explique. Hélène Mercier, en plein questionnement pour Carrefour du Monde à Montréal.
Ceci clôture nos revues d'actualité. Dans un instant, vous retrouverez la partie magazine. Il sera question du nord-ouest du Canada, ces territoires dont la moitié de la population est autochtone connaissent un système politique particulier appelé gouvernement de consensus. Aujourd'hui, dans la partie magazine de Carrefour du Monde, nous partons dans le nord-ouest du Canada, une région qui a son propre système politique, un système politique appelé gouvernement de consensus, un système qui fait appel à l'Assemblée législative depuis des décennies. Les territoires du nord-ouest et le Nunavut sont les deux seuls territoires canadiens à se différencier du modèle politique national. Ces deux territoires du Grand Nord canadien ont un mode de prise de décision qui exclut l'existence de partis politiques. C'est une façon de fonctionner calquée sur les méthodes autochtones. Il faut dire que les populations autochtones représentent plus de 50% de la population de ces territoires. Entrevue avec Louis-Edmond Hamelin, ancien député à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest de 1970 à 75, et explication de Simon Bérubé, journaliste à Yellowknife, capitale des territoires du Nord-Ouest. Gros plan sur le gouvernement de consensus avec Hélène Mercier.
En réalité, c'est un meilleur système que le système des partis politiques. Parce qu'en fait, on est libre. Ce n'était pas le parti, somme, qui nous disait « vous votez oui, vous votez non ». En réalité, le député se trouve beaucoup plus libre. Ça le force, somme, à être plus conscient. Il n'a pas besoin, somme, de bien s'asseoir, disant « je suis du côté de la majorité », puis les choses, somme, vont être votées tout seul. De se recouper de la qualité, en fait, du geste du député, le fait d'être libre, c'est une condition, à mon sens, qui est meilleure.
Le gouvernement de consensus, dans le fond, c'est pas si compliqué. C'est qu'il n'y a pas de parti politique, donc chaque député représente sa circonscription. Il n'y a pas de ligne de parti. Et parmi les députés, ils choisissent les membres du cabinet, donc les ministres et le premier ministre. Et bien là, le cabinet suit une certaine ligne, si on veut. Le cabinet vote ensemble sur les différents projets, les motions, les projets de loi, etc. Tandis que les députés réguliers, eux, tout simplement se doivent de voter selon leur conscience. C'est du vote libre toujours. Et il y a plus de députés réguliers que de ministres. Donc, on se retrouve un petit peu avec un gouvernement minoritaire en tout temps.
Et comment les ministres et le premier ministre sont choisis?
C'est par vote entre députés. Alors, la population, quoique la population puisse se douter un petit peu dans cette circonscription-là, ce député-là ou ce candidat-là a des bonnes chances d'être ministre, la population ne se choisit pas de parti pour gouverner, donc choisit pas de ministre non plus. C'est vraiment par vote entre les députés, en gardant une certaine représentation territoriale, qui est deux ministres du sud des territoires du Nord-Ouest, deux ministres de Yellowknife et deux ministres du Nord des territoires du Nord-Ouest.
Et est-ce que, selon vous, c'est une façon de fonctionner qui apporte plus de débats en chambre?
C'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il y a moins de partisanerie, d'abord. Ça, c'est un bon côté. Il n'y a pas les partisaneries que peuvent apporter les partis politiques, comme on connaît dans les provinces du Sud et même au niveau fédéral.
Il y a bien plus de discussions, parce qu'autrement, quand il y a la ligne du parti, bon, le type peut parler, là, mais il va simplement répéter ce que son collègue vient de dire. Bon, il va simplement allonger les débats, alors que là, en fin de compte, ça va très bien, d'ailleurs, avec le mode, en fait, autochtone. Les Inuits, entre autres, nous sommes, ont une capacité extraordinaire de fouiller dans une question de la reprendre pour la comprendre en somme définitivement. Et à ce point de vue-là, en somme, c'est incomparable. On ne trouve pas ça en somme dans aucune autre législation, à ce moment-là, dans aucune autre législation canadienne.
D'un autre côté, par contre, ça peut ralentir certains débats où on peut perdre beaucoup plus de temps sur certains enjeux qui, finalement, ne requièrent pas autant de temps que ça. Et ça remet toujours en question le gouvernement de consensus, la façon de procéder par elle-même. C'est récurrent à chaque année ou à chaque 2 ans. Il y a une espèce de petite crise à l'Assemblée législative où on perd beaucoup de temps à remettre en question le gouvernement de consensus. Donc, ça fait perdre du temps. C'est pour ça que c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, il y a moins les querelles de partis puis tout ça, mais de l'autre côté, il y a des querelles entre ministres ou entre députés qui font perdre du temps aussi au processus législatif.
Il y avait aussi 3 ou 4 des 14 membres de l'Assemblée qui auraient voulu faire partie d'un parti politique pour s'accrocher, si je peux dire, à la formule de pan-canadienne. Et bon, ils ne réussissaient pas, ça m'a convaincu, les autres membres et le ministère du Nord aussi, du fédéral, d'embarquer dans cette chose-là.
Il y a beaucoup de personnes qui le disent, qui le croient. Il y a d'ailleurs un groupe qui aimerait former un parti pour les prochaines élections. Une fois que ce groupe-là, s'il était élu, ce qu'il ferait, c'est qu'il reprendrait la formule des partis politiques. La population peut être perdante, oui, parce que supposons que quelqu'un de Yellowknife n'est pas en accord avec une politique de tel ministre qui n'est pas un député de Yellowknife, par exemple. Bien, il n'y a pas un mot à dire sur le fait que ce ministre-là va être élu ou pas. Le ministre, il va être élu dans sa circonscription en tant que député et c'est entre députés qui vont le choisir comme ministre. Donc, la population n'a pas un choix direct de ses ministres, si on veut. Donc, si la population était satisfaite d'une politique, ne peut pas nécessairement le faire repayer à l'élection suivante.
En France, il y a quelques années, il y a eu un mouvement, un questionnement. On s'est dit, est-ce que les partis politiques sont nécessaires? C'était la question. Et les grands politiciens ou politologues, en somme, français, comme Raymond Barre, etc., des gens qui étaient en vedette, qui étaient des gens de réflexion, se sont prononcés, en somme, là-dessus. Et à fin de compte, ils ont conclu que les partis politiques en France étaient un mal nécessaire. Donc, ils n'ont pas eu la hardiesse, en somme, de changer la formule. C'est une assez grande question, ça. Maintenant, je dirais pas somme que les gens des territoires du Nord-Ouest, disons, la remuent fondamentalement, mais ils la pratiquent et ça marchait.
Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement de consensus, les gens sont en train de l'explorer, de le découvrir. Il reste du travail à faire pour que ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a plusieurs provinces au Canada, probablement plusieurs pays aussi, qui gagnerait probablement laisser un petit peu de côté les partis politiques.
C'est ainsi que s'achève cette émission de Carrefour du Monde. Merci à tous nos correspondants, Clarisse Sérénia à Saint-Pierre-et-Miquelon, Hélène Mercier à Montréal, Emmanuel Stels à Madrid, Laurent Dufour à Lausanne et Faïd Swahili à Londres. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et trouver un max d'infos sur notre site internet carrefourdumonde.org. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine de Carrefour du Monde à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM, à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ Préférence 95.2 FM, mais aussi à Montréal le dimanche à 13h sur CISM 89.3 FM. Merci de votre attention. Ici Nicolas Willems à Bruxelles. À la prochaine. Ciao.